La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Notre mission, chaque jour, vous montrer que la France regorge de femmes et d'hommes qui osent, qui se lancent et qui bâtissent déjà le monde de demain. À mes côtés en studio, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Un chèque de 100 milliards d'euros, on parle du plus grand plan de relance de l'histoire. Il est présenté en ce moment même par le Premier ministre. Parmi les priorités, accélérer la transition écologique, quid justement de la rénovation thermique et énergétique des bâtiments. Notre invité, allez, on va le dire, c'est le leader mondial du secteur, Pierre-André de Chalendar, patron de Saint-Gobain, est avec nous aujourd'hui dans la France Bouge jusqu'à 14h.
À la une, en effet, aujourd'hui, Emmanuel, le secteur du bâtiment qui doit être au rendez-vous de ce plan de relance. Ils existent depuis 80 ans, ils forment les meilleurs ouvriers du bâtiment, les compagnons du devoir, c'est notre saga du jour. Rendez-vous à 13h30 avec leur président.
Alors c'est pour certains la minute 30 la plus longue de leur histoire. Chaque jour, un entrepreneur ou une entrepreneur qui se lance vient tenter de vous convaincre et de convaincre notre grand patron du jour. Soyez au rendez-vous, c'est à 13h40.
Demain au travail, décryptage sur nos nouvelles façons de travailler, comment s'organisent les entreprises dans ce monde en pleine transformation. Et si l'entreprise de demain, c'était avec du matériel complètement recyclé? On a trouvé pour vous aujourd'hui une entreprise qui reconditionne tout le matériel informatique et on vous dira tout.
Bienvenue à tous dans La France Bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
100 milliards d'euros mis sur la table pour faire bouger la France et éviter que notre pays décroche. Le plan de relance est présenté en ce moment même par le Premier ministre. Parmi les priorités, la rénovation thermique et énergétique des bâtiments publics et de nos appartements ou maisons. Une enveloppe de près de 7 milliards d'euros va être débloquée, Emmanuel.
Pierre-André de Chalendar, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et de la France Bouge. Vous êtes le patron de Saint-Gobain, leader européen, leader mondial de l'isolation, du double vitrage. À la base, hein, votre spécialité, ce sont justement les fenêtres, le verre. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Déjà, première question qui va peut-être vous paraître toute bête, mais 100 milliards d'euros, c'est assez ?
Oh, il y a beaucoup de débats. Écoutez, c'est beaucoup. Le Premier ministre l'a dit. C'est aujourd'hui le plus grand plan annoncé en Europe. Je crois que c'était très important d'avoir un plan pour accompagner la deuxième phase du Covid et d'aller vite. Donc, je salue l'effort du gouvernement. Je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses. On va parler de la rénovation énergétique, mais je crois qu'il y a beaucoup de mesures pour les entreprises qui sont importantes. Donc, moi, mon premier sentiment, c'est que c'est un très bon plan.
Alors, vous parliez de rénovation énergétique. Vous avez dirigé un petit groupe de réflexion sur les passoires thermiques pour préparer justement ce plan de relance. Et votre constat était sans appel. La France est une passoire thermique. Est-ce que ce plan va répondre enfin à ces problèmes ?
Alors d'abord, je veux dire que le sujet de la rénovation énergétique du bâtiment, ça coche toutes les cases aujourd'hui. Donc je trouve que c'est très bien et c'est bon pour la France que ce soit une des priorités de ce plan. D'abord, c'est bon pour l'emploi. Le secteur du bâtiment, ça emploie beaucoup d'emplois et des emplois non délocalisables. Donc à la clé de ce plan, dans le bâtiment, il y a beaucoup d'emplois. Deuxièmement, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Parce que les bâtiments rénovés, ça consomme beaucoup moins d'énergie. Hein, donc une réduction par 5, 6 de la facture énergétique. Donc c'est du pouvoir d'achat avec du confort. C'est des habitations plus confortables. Et en plus, pour les propriétaires, ça augmente la vie de leurs biens. Troisièmement, c'est de la justice sociale. Parce que, en fait, vous parlez des passoires thermiques. Les passoires thermiques, le plus souvent, ce sont les gens modestes qui habitent dans les passoires thermiques. Et je crois que c'est un axe important du gouvernement. Quatrièmement, c'est bon pour la planète. Et je crois que les Français, c'est très frappant de voir qu'avec le Covid, si vous voulez, les sujets d'environnement, ils sont liés à la sujet de la santé. Il y a un lien entre la santé, l'environnement, la planète. Et donc, ça va réduire les émissions de CO2. Et puis, dernier point, c'est bon pour le commerce extérieur. Donc, ça coche toutes les cases, la rénovation énergétique du bâtiment. Et c'est pour ça que c'est en bonne place dans le plan de relance.
Mais ça fait des années qu'on déverse des milliards d'euros pour la rénovation énergétique. Alors, peut-être pas assez jusque-là. Voilà. Ou surtout, peut-être pas de la bonne façon. Cette fois, on nous promet enfin des choses simples et avec de l'argent. Tout de suite. Vous y croyez, vous ?
Alors, d'abord, on a dépensé beaucoup moins d'argent. Vous avez vu que dans les 7 milliards, il y en a à peu près 4 sur les bâtiments publics. Moi, ça fait plusieurs années que je dis aux gouvernements successifs que l'État devrait donner le bon exemple. C'est un bon investissement pour l'État. Hein, et en plus, ça réduira les coûts de fonctionnement. Or, on dit souvent cordonnier est le plus mal chaussé. Les bâtiments publics sont en retard. Donc, il y a une partie très importante de ce plan qui est pour les bâtiments publics. Et là, l'État n'a pas voulu mettre de l'argent. Deuxièmement, c'est vrai...
Là, il y a enfin de l'argent pour le faire. Il y a 4 milliards.
Oui, oui. Et alors, en plus, sur des bonnes priorités, hein, sur les écoles, les hôpitaux, parce qu'il faut savoir que quand on va rénover les écoles, on va aussi améliorer l'acoustique. Quand on va rénover les hôpitaux, on va aussi améliorer la qualité de l'air. On va pouvoir avoir des parois lavables. Donc, si vous voulez, on va augmenter la valeur d'usage. C'est très important ce que je dis sur l'éducation. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on apprend beaucoup mieux quand on est dans un environnement acoustique qui est bon. Les écoles, c'est pas terrible.
Comment on est certain que cet argent va arriver au bon endroit pour faire les travaux ?
Alors, d'abord, les bâtiments publics, si vous voulez, c'est l'État qui est maître d'œuvre, c'est les collectivités locales.
Mais la question est la bonne, parce que les appels d'offres, ça dure des années. Et parfois, le temps de sélectionner tout le monde. Là, je crois que justement...
Alors, il y a eu toute une série de mesures de simplification. Il y en a une qui a été prise il y a quelques semaines, hein, qui augmente le niveau sur lequel les collectivités locales peuvent faire des travaux sans appel d'offres.
70 000 euros.
Oui, mais c'est déjà... mais je suis d'accord qu'il va y avoir un sujet de mise en œuvre et d'accompagnement. Hein, et c'est important, mais le choix, il faut aussi, si vous voulez, on va voir qui est candidat. Hein, il y a des présidents d'université qui sont déjà sur les starting blocks et qui attendaient l'argent. Donc, ce qui a changé, si vous voulez, par rapport, pour reprendre votre question initiale, c'est que l'État est prêt à mettre des moyens. Hein, c'est des investissements, je pense, importants pour l'avenir, mais jusqu'ici, il y avait moins de moyens. Bon. Alors après, quand on rentre dans le détail, ce qui a changé aussi, c'est que sur la partie privée, Emmanuel Wargon a expliqué,
c'est la
nouvelle ministre du Logement, il va y avoir un paquet sur ce qu'on appelle la rénovation globale. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider juste l'isolation des combles ou juste le remplacement de la chaudière, là, on va favoriser des chantiers plus importants sur lesquels, et quand on fait tout en même temps, on obtient un résultat. Je vais vous prendre un exemple. Hein. Ça va être très significatif. En gros, c'est entre 300 et 400 euros par mètre carré pour rénover de façon globale. Mais si vous faites ça, donc ça va coûter cher. Hein, sur 100 mètres carrés, ça fait peut-être 30 000 euros. La prime rénove, elle pourra aller, alors en fonction des conditions de ressources, mais d'abord, maintenant, tout le monde y aura droit. Hein, pas dans les mêmes conditions, mais tout le monde y aura droit. Y compris les propriétaires bailleurs, y compris les copropriétés, donc c'est un gros progrès. Et ça pourra aller jusqu'à 20 000 euros. Donc ça veut dire que
quelqu'un qui a un joli bien
de maison individuelle... Hein, en fonction des ressources, ça ne coûtera pas très cher. Hein. Il va rester à charge pas grand-chose pour les plus modestes, un tiers. Et une réduction de la facture de chauffage, hein, mettons que c'était à peu près 3 000 euros, mon logement moyen, ça va être 500 euros. Donc c'est quand même très significatif.
Là, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui sont en train de nous écouter à la maison dans leur voiture qui se disent « Hop, 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 j'ai directement sur ma prime rénov'. Voilà. » Attendez un tout petit peu. C'est le 1er janvier que ça entre en vigueur.
Il faut constituer son dossier, ça prend du temps. Donc je leur conseille de commencer à y réfléchir tout de suite. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la rénovation a déjà redémarré parce que pendant qu'ils étaient confinés, hein, il y a beaucoup de Français qui ont pensé à ça. C'est ce qui fait que moi, je les vois puisque on a une reprise qui a été très forte dès le mois de juin et qui s'est amplifiée en juillet.
Alors c'est une hausse de chiffre d'affaires gigantesque. Là, vous êtes un patron heureux aujourd'hui quand on dirige Saint-Gobain.
Alors, le premier semestre a été difficile, mais les trois à cinq prochaines années vont être le post-Covid, le Saint-Gobain post-Covid va être plus croissant que le Saint-Gobain pré-Covid.
Alors, on est très heureux d'avoir un patron heureux. Il est 13h18 et vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et on est très heureux, hein, chaque jour à la mi-journée d'être avec vous, avec Elisabeth sur Europe 1. La France bouge, notre grand patron du jour, Pierre-André de Chalandard, le patron de Saint-Gobain. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h. On parle plan de relance au moment même où le Premier ministre Jean Castex le présente. Il promet des effets concrets pour le plus grand nombre. Et grâce à vous, on a pu en mesurer les premiers effets. Alors le gouvernement dévoile donc en ce moment, hein, les détails de ce plan. Parmi les secteurs le plus touchés par la crise, le bâtiment, un plan massif. On en parle depuis le début de cette émission et on va continuer avec vous, notamment Elisabeth.
Et oui, on va continuer avec Nova Bloc. Bonjour, en saut de la salle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors vous construisez des maisons écolo, hein, c'est ce que vous dites, modulaires. Pas besoin de permis de construire. En plus, elles sont très belles. Hein. On est allé voir sur le site internet, elles sont de votre entreprise. Donc des maisons écolo modulaires préfabriquées, pas de permis de construire. C'est quand même une idée géniale. Vous avez fondé votre entreprise il y a 5 ans, c'est ça ?
Alors il y a 5 ans, on a commencé à travailler en recherche sur des premier prototype et on a commercialisé en fait Novabloc et surtout les mini-blocs et les maxi-blocs il y a 2 ans. À travers ces premiers prototypes, c'était de savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir offrir et créer. L'idée, c'était de créer un habitat en pleine nature, individuel, où on puisse s'immerger dans la nature, tout en respectant finalement l'environnement sur lequel on venait se greffer. Mmh. C'est pour ça qu'on a une des particularités, c'est qu'on utilise des micropieux. Les micropieux, c'est un élément en fait, qui nous permet de venir visser notre bloc, tout en étant écologique et tout en étant respectueux au moment où on enlève en fait ce bloc d'habitation.
Elles sont éphémères, vos habitations alors ?
Alors, elles sont pas éphémères, elles sont déplaçables. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir tout fabriquer en atelier. On fabrique ça avec un compagnon du devoir, donc à Camaret-sur-Aisne.
Ce sera notre saga d'ici quelques
Exactement,
minutes
voilà,
dans La France Bouge.
Olivier Garouard, qui est un compagnon, tout est 100% français. On a cette chance, on a certaines particularités notamment aussi d'utiliser du bois brûlé en revêtement extérieur. Cette particularité, c'était une technique japonaise qui s'appelle le Tsushugiban, qui permet en fait de moins s'altérer avec le temps, de moins griser et d'avoir un aspect esthétique plus durable et plus camouflé dans la végétation.
Mais justement, Elisabeth disait qu'elles sont très belles et c'est vrai que quand on a préparé cette interview, on est allé les voir, mais notre auditeur n'a pas encore eu cette chance. Alors, est-ce que vous allez aimer l'image qu'on va vous donner ? C'est une sorte de Lego et en plus, on peut doubler le Lego en fonction de notre envie et de la superficie. C'est ça l'idée ?
L'idée nous était venue parce que nous-mêmes étions à Paris et puis on voulait acheter une maison et pas les ressources financières, et se dire, l'idéal, ce serait d'acheter un terrain, de venir greffer un micro-module et à un coût accessible. Et c'est vrai que maintenant, en fonction des aléas de la vie, de la sociologie, on se sépare, on se remarie, les familles se recomposent. Et il faudrait déjà avoir un achat de maison sur 20-25 ans avec un crédit, avec 3 chambres, alors qu'on n'a même pas encore les enfants. Donc l'idée de se dire, on va acheter un premier module, puis on va venir 5 ans après venir en greffer un, et peut-être qu'on va bouger, qu'on va migrer dans un autre endroit, qu'on va aller dans une autre région. Donc l'idée originale était vraiment ce principe.
Donc
modulaire.
L'idée, c'est d'acheter quand même le terrain.
Oui.
Hein, c'est important. Et ensuite, il faut compter en moyenne combien pour
Alors,
vos
notre
maisons.
Première gamme commence à 40 000 euros. Voilà, c'est la gamme brute.
Mais on sait que c'est celle que personne n'achète. Donc le vrai prix, c'est combien ?
Le vrai prix, on est autour de 58 000 euros. En fait, ça va dépendre en fonction des finitions. Alors, l'avantage quand même et le marqueur fort de Novabloc, c'est qu'on construit tout en bois. On est sur une ossature bois, une isolation en laine de bois avec des finitions en bois intérieur. Ce qui forcément augmente un petit peu le coût final du bloc.
Alors Saint-Gobain, on ne le sait pas toujours, mais il y a des marques aussi très grand public comme par exemple Lapeyre. Ce genre de dispositif Pierre-André de Chalandard, ça vous intéresse ?
C'est quelque chose qu'on regarde dans beaucoup de pays. D'abord, je trouve que je ne connaissais pas Novabloc et je trouve que c'est une belle idée. Le produit est beau. Je crois qu'il y a une tendance qui est variable selon les pays d'Europe, mais il y a une tendance à ce qu'on appelait autrefois préfabriqué. Moi, je préfère parler de construction hors site, puisque préfabriqué, ça ne faisait pas forcément qualité, alors que d'ailleurs, on l'a vu, hein, la Novabloc, c'est des maisons de qualité. Donc, je crois qu'il y a une tendance à fabriquer en usine, qui permet d'être plus rapide, d'être à un coût inférieur, hein, et d'avoir des produits dont, alors on le fait en général avec des modules, mais on a des expériences dans toute une série de pays. On fait ça en Écosse, on fait ça en France, on fait ça au Danemark. Bon, mais c'est souvent des éléments de préfabrication. Hein, pour l'instant, on ne fait pas de maison complète, mais je trouve que c'est une idée intéressante. C'est une tendance qui se développe.
C'est une tendance qui est en train d'émerger. C'est un marché qui évolue. Est-ce que avec le coronavirus, est-ce que la Covid a augmenté la demande de vos maisons Novabloc ?
Phénoménal.
Phénoménal, c'est-à-dire ?
Ouais, c'est en fait, si vous voulez, le Covid révèle aux gens l'envie de changer de travail, changer de vie, changer de région. Et on a reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages de l'idée. En plus, c'est ça qui est assez étonnant avec Novabloc, c'est que ça cristallise beaucoup de nouveaux projets. Donc les gens nous appellent, veulent ouvrir des micro-gîtes, veulent faire de la permaculture, veulent tout d'un coup pouvoir accepter leurs parents dans la maison ou dans le jardin. Donc ça crée de nouvelles tendances et
Allez, on met les parents au fond du jardin. Ouais. Papa, maman, si vous écoutez, vous êtes prêts. Pierre-André de Chalandard, je disais donc que vous avez la paire. Est-ce que vous voyez aussi cet effet Covid sur vos ventes, sur vos enseignes grand public, hein.
Alors, l'enseigne grand public qu'on a, c'est Lapeyre. Oui, on a, d'une manière générale, comme on a une reprise très forte à partir de juin-juillet, et encore plus forte chez La Perque, par exemple, chez Point P, ou nos
marques. Qui est également une de vos marques, Point P.
Parce qu'il y a la cuisine chez La Perque, par exemple. Hein, et je pense que les gens en confinement, ils se sont intéressés à leur intérieur. C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Ils ont passé leur temps à cuisiner.
Hein, et donc, ils donnent des idées. Les gens repensent à leur mode de vie. Et donc, l'intérieur, oui, redémarre très fort. On a fait un été très, très fort chez La Perque.
Et vous êtes revenu à des niveaux semblables, similaires à l'an dernier ?
Alors, le mois de juin, juillet, on est très au-dessus de l'année dernière. On avait un gros trou en avril. Hein, et donc, on est presque, ceci étant, à fin août, on est presque revenu au niveau de l'année dernière.
Vous aviez reconnu chez Saint-Gobain que vous ne saviez pas en faire, vous saviez pas quoi faire de La Perque. Du coup, grâce à tout ça, vous le gardez ou vous continuez à vouloir le vendre ?
La Perque n'est pas au cœur de notre dispositif parce que La Perque, ça s'adresse au grand public. Et on a fait le choix, chez Saint-Gobain, de vendre à des professionnels. Donc ça ne change pas notre
marque. C'est-à-dire que vous cherchez toujours quelqu'un pour l'acheter.
On est à la recherche d'un partenaire sans se bousculer, d'autant plus que La Perque va beaucoup mieux. On prend notre temps et c'est important d'avoir une belle solution pour le long terme pour La Perque.
En tout cas, pour les maisons modulables et respectueuses de l'environnement, ça s'appelle NovaBlock. Merci à vous, Anso de la salle, d'être venu nous en parler.
Vous êtes sur Europe 1, il est 13h28. Pierre-André de Chalendar, le patron de Saint-Gobain, est notre invité jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et avec Elisabeth, on est comme chaque jour avec vous jusqu'à 14h sur l'antenne d'Europe 1 avec notre grand patron du jour, Pierre-André de Chalendar, patron de Saint-Gobain. On va reparler un peu plus tard dans cette émission du plan de relance, mais on a envie avec Elisabeth de s'arrêter sur le Liban. Pourquoi ? Parce que vous avez atterri hier en toute fin d'après-midi du Liban. Vous étiez dans la délégation du président de la République Emmanuel Macron. Vous étiez là-bas sur place hein, puisque vous avez aidé les Libanais avec des produits de première nécessité pour essayer de recalfeutrer entre guillemets, certains bâtiments. Ma première question va peut-être être toute basique, mais qu'est-ce que vous avez vu sur place, là, quelques semaines après ? Comment est le pays ?
Alors, c'était très impressionnant ce que j'ai vu. On a été, avec le président, on a été dans le port, à l'endroit où a lieu la déflagration. On a discuté avec un certain nombre d'ONG. Puis moi, j'ai été l'après-midi soutenir un peu les équipes de Saint-Gobain et qui m'ont montré aussi ce qu'ils faisaient concrètement dans des quartiers qui sont complètement dévastés, donc où les gens n'ont plus de toit. Ce qui m'a frappé, c'est une très grande solidarité des jeunes Libanais. J'ai vu des ONG formidables qui font un travail remarquable et c'est tout naturel que Saint-Gobain cherche à aider. Donc un des objectifs aussi, c'était, puisque le président de la République, en dehors de son agenda politique, il venait réceptionner les bateaux qui avaient apporté à la fois des médicaments, de l'aide alimentaire et puis des matériaux de construction. On a envoyé des matériaux de première urgence pour aider à la reconstruction d'hôpitaux, d'écoles.
Alors aider à la reconstruction, il y a une urgence là, de reconstruire aussi, notamment parce que l'hiver va arriver.
Exactement. En fait, ils ont en général à Beyrouth, il pleut vers la fin septembre. Donc là, il y a une course contre la montre qui est engagée pour essayer de redonner les toits. Il y a énormément de fenêtres. Hein, on a envoyé beaucoup de verre. Il y a énormément de fenêtres brisées et de calfeutrer tout ça, si possible avant le 30 septembre et en tout cas pour l'hiver.
Alors là, pour le moment, ce sont des cadeaux. Alors pardonnez-moi, je vais être un peu prosaïque dans ma question, mais la France est très présente. Hein, c'est déjà le deuxième voyage du président Macron. Est-ce que vous pensez que vous, entrepreneur français, pardonnez-moi là encore l'expression, est-ce que vous allez bénéficier de la présence française pour gagner une grande partie des contrats de reconstruction, Pierre-André Chalendar ?
Oh, c'est pas ma préoccupation. D'ailleurs, Saint-Gobain est très bien implanté au Liban. C'est là qu'on a le quartier général du Moyen-Orient. On a des équipes solides, on existe au Liban. Ma première préoccupation aujourd'hui, c'est d'essayer d'aider à la reconstruction. Mais oui, il va y avoir un effort de reconstruction important.
Hein, c'est quoi pour vous la priorité là-bas ?
La priorité...
Pour vous, en tant que patron de Saint-Gobain ?
Ah, la priorité pour moi, c'était d'abord d'apporter mon soutien aux équipes de Saint-Gobain qui sont ébranlées. On n'a pas eu de blessés, mais on a eu des gens qui ont eu leurs habitations qui étaient très endommagées, puisque c'est donc les Libanais sont éprouvés. Alors en plus, comme vous le savez, il y a une crise économique très forte. Ça a été un peu le goutte d'eau au-dessus de tous les problèmes. Comme vous
le
savez,
c'est vrai
la situation
que vu de France, on ne le sait pas toujours, mais
la situation économique est dramatique.
L'inflation est catastrophique. Hein,
voilà, le pays est en faillite, en fait. Le système politique est à bout. C'est d'ailleurs pour ça que le président, essentiellement, y est allé, hein, dans une mission très délicate. J'espère qu'il va réussir. Et donc, manifester notre solidarité. Comme vous savez, il y a des liens très étroits entre les Français et les Libanais. On a beaucoup de Libanais dans Saint-Gobain. Et donc, pour moi, c'était tout à fait naturel.
Mais pour vous, c'est un énorme chantier d'avenir, malgré
tout.
Oui,
ce sera
un gros contrat potentiel.
Ce sera aussi probablement un chantier important dans les années qui viennent. Tout à fait.
Alors, on va poursuivre maintenant avec notre votre saga, hein, puisque on bâtit des ponts, des bâtiments dans cette émission. Les bâtisseurs de cathédrales des plus beaux viaducs de France, vous les connaissez tous, hein, ce sont les Compagnons du Devoir et c'est notre saga du jour, Elisabeth.
Et oui, avec vous, bonjour Jérémy Monnier.
Bonjour.
Vous êtes le président des Compagnons du Devoir, hein, le plus vieux mouvement ouvrier. C'est quand même la seule institution qui a su résister à 800 ans d'histoire. C'est quoi un compagnon ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ?
Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça, je ne saurais pas vous dire précisément, mais comme vous le disiez, on a une histoire qui est très vieille. On remonte historiquement au XVe siècle avec les premières traces écrites du compagnonnage, mais on peut imaginer que lors des premières constructions d'édifices religieux entre le XIe et le XIIIe siècle, c'est là qu'est apparu le compagnonnage. Alors, dans une époque complètement différente de celle d'aujourd'hui,
oui.
où les ouvriers que nous sommes restés aujourd'hui ont commencé à se libérer, à voyager et ont pu découvrir et transmettre leurs connaissances.
Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de 800 ans d'histoire ? C'est le poids de l'histoire. On se dit on a toujours fait comme ça, donc il faut continuer, par exemple, hein, à être dans l'excellence du métier.
Non, ce qui fait que nous sommes toujours là aujourd'hui, c'est que toutes les générations avant nous ont transmis ce devoir de transmission justement de notre savoir-faire et le bonheur qui va avec, en fait, tout simplement, puisque il s'agit pas de se lever le matin pour être malheureux. Un compagnon comme tous les autres, on aspire juste à être heureux, donc voilà, c'est et autant être heureux en pratiquant un métier comme il faut.
Un métier comme il faut, vous êtes partout, hein, dans tous les métiers, hein, mais dans les métiers du bâtiment, ça va du maçon au peintre, au couvreur, au tailleur de pierre, au plâtrier. Combien d'effectifs dans le bâtiment ressortent des compagnons du devoir ?
Alors aujourd'hui, tous métiers confondus, on forme à peu près 10 000 jeunes par an. On peut estimer qu'il y a à peu près les deux tiers qui sont concernés par les métiers du bâtiment, mais avec aujourd'hui des problèmes de recrutement et des besoins dans les métiers de maçon, plombier, couvreur, pour parler que du bâtiment, qui sont énormes aujourd'hui. On a plus de 1700 offres d'emploi aujourd'hui en face desquelles on peut pas mettre de jeunes parce qu'on n'a pas ces jeunes-là qui ne sont pas attirés par ces métiers-là.
Est-ce que vous pensez que vous allez avoir encore plus de demandes avec le plan de relance, hein, qui est présenté en ce moment par les différents ministres et par le Premier ministre et dont on parle depuis le début de la France Bouge avec le patron de Saint-Gobain ? Est-ce que vous pensez que beaucoup d'entreprises du bâtiment vont vous appeler pour dire bah « là, j'ai encore besoin de plus de couvreurs, de plus de tailleurs de pierre » ?
J'espère. J'espère, puisqu'aujourd'hui, on a fait un très bon recrutement pour cette rentrée, avec plus de 6 000 jeunes recrutés. On en a aujourd'hui placé que 2 500. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont frileuses. Alors peut-être que certains attendaient les annonces d'aujourd'hui. Il y en a qui ont été faites au mois de juillet, qui vont en faveur de l'emploi des jeunes, des apprentis, des contrats de professionnalisation. Il faut y aller. Mais j'espère effectivement que ces 3 500 jeunes qui sont encore à placer trouveront l'emploi dans la semaine ou les 15 jours qui viennent. Ouais.
Pierre-André de Chalandard, PDG de Saint-Gobain, quand vous entendez Monsieur Monnier, hein, président des Compagnons du Devoir, il y a des Compagnons du Devoir chez Saint-Gobain ?
Non, c'est plutôt chez nos clients.
Chez vos clients,
hein. C'est nos clients, il y en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qui est fait par les Compagnons du Devoir. C'est très très bien, c'est l'amour du métier. Et ce que je pense qui est très important aujourd'hui, et il faut que dans ce plan, il y ait un volet là-dessus, c'est de communiquer sur l'attractivité de ces métiers. Hein, je pense que c'est très important. Et redonner la noblesse au métier du bâtiment, c'est des magnifiques métiers. Et parce qu'aujourd'hui, on a souvent nos clients ont des difficultés. Enfin, je partage le constat qui a été fait par le président des Compagnons du Devoir.
Ce plan de relance est un plan pour soutenir l'emploi. Alors, on ne va pas entrer dans le détail, mais on vous baisse ce qu'on appelle les impôts de production de 10 milliards. Oui. Ce sont des impôts qui pesaient, par exemple, une taxe sur vos bâtiments.
Oui.
Vous allez donc gagner beaucoup d'argent grâce à cette baisse. Est-ce que vous, très concrètement, chez Saint-Gobain, vous allez embaucher plus que prévu des jeunes ou autres grâce à ces mesures ?
Alors, j'ai prévu déjà, parce que je pense que c'est très important, comme toute une série de grandes entreprises, qu'on donne l'exemple là-dessus, on a prévu d'augmenter le nombre d'apprentis cette année. On va embaucher On va prendre 2000 apprentis cette année.
Contrat d'apprentissage.
Pour ceux qui ne seraient pas au courant, d'apprentissage. C'est une des mesures phares du plan de relance. On va faire très simple.
Et on a créé un centre interne d'apprentis chez Saint-Gobain. Donc on a notre première promotion qui va démarrer à la fois sur des activités de maintenance dans les usines et des commerciaux dans la distribution.
De façon très concrète, ces fameux impôts de production qui vont vous permettre donc de gagner de l'argent. Est-ce que par exemple ça va vous permettre aussi tout simplement de facturer moins cher vos produits parce que ça va vous coûter moins cher de les produire.
La raison pour les impôts de production, c'est beaucoup pour la compétitivité de l'industrie française. Bon. Donc là, je veux vous faire une réponse plus globale que pour Saint-Gobain, pour l'industrie, parce que Saint-Gobain, on est beaucoup dans des métiers locaux. Mais pour beaucoup de par rapport, les impôts de production, c'est pour surtout pour les entreprises qui ont des concurrents étrangers. Et là, si vous voulez, c'était des boulets au pied. Donc c'est des impôts qu'on paye alors qu'on n'a pas gagné encore un sou. C'est sur le chiffre d'affaires. Hein. Donc c'est très très important de réduire ce gap de compétitivité. C'est un pas dans la bonne direction.
Mais vous allez relocaliser grâce à ça parce que c'est aussi l'un des buts.
Comme je vous ai dit, sur Saint-Gobain, on est beaucoup sur des métiers locaux. Mmh. Donc nous, on va se développer et embaucher.
Mais vous
parce
êtes présent partout
il y a
dans
la
le
rénovation
monde.
Énergétique plus que par le sujet de compétitivité. Mmh. J'ai certains métiers industriels, sur Pont-à-Mousson, ça va nous aider, par exemple, parce que là, on exporte. Hein, on est sur des. Donc, mais c'est pour l'industrie française au sens large, c'est une mesure très importante.
En tout cas, merci à Jérémy Monnier, le président des Compagnons du Devoir, qui est venu un petit peu nous apporter tout cet éclairage, tout le travail que font les Compagnons du Devoir. Et Pierre-André de Chalandard, vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et nous sommes toujours avec Pierre-André de Chalandard, le PDG de Saint-Gobain. Vous êtes notre grand patron du jour. Alors là, vous allez mettre le costume du coach, Pierre-André de Chalandard, parce que c'est le moment d'écouter un projet porté par vous. Bonjour Fabrice Soler.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Storist. Hein. Vous avez presque 50 ans, 49 ans m'a-t-on dit. Votre application a vu le jour en février dernier. Comme souvent, l'idée naît d'une expérience. Tout démarre pour vous à Barcelone sur les Ramblas. Je ne vais pas en dire plus, parce que maintenant, c'est votre défi. 1 minute 30, pas une seconde de plus, sinon on arrête. 1 minute 30 pour tous nous convaincre ici en studio, puis surtout à la maison ou dans la voiture pour nos auditeurs. Allez, c'est à vous.
Très bien. Donc, quand on voyage, on a tous fait le constat que quand on veut faire une activité, il faut la réserver à l'avance et c'est bien souvent une activité de groupe. Il n'y a pas d'application qui permet de faire une activité quand je veux et d'avoir un accompagnateur de tourisme qui vienne vous retrouver à l'endroit que vous voulez pour faire l'activité que vous voulez. Et aujourd'hui, avec le tourisme qui se développe, on a besoin d'un tourisme un petit peu plus éthique et solidaire. Et d'un côté, on a des voyageurs, mais aussi des locaux qui veulent de l'authentique et du sur-mesure. Et de l'autre côté, on a des populations locales qu'il faut aider. Des étudiants et également des commerçants et des artisans locaux qui détiennent le savoir-faire. Et bien aujourd'hui, Storist a créé donc la technologie qui permet de mettre en relation instantanément un utilisateur, qui peut être un voyageur ou un local, avec un étudiant accompagnateur qui parle sa langue et qui va pouvoir l'accompagner dans le cas de visites et d'accompagnement culturel thématique. Et pouvoir le rejoindre aussi grâce à l'application en moins de 30 minutes. Donc l'étudiant fait des études dans le domaine qui intéresse l'utilisateur, par exemple la gastronomie, l'art, la culture, l'architecture. L'utilisateur va pouvoir booker son étudiant au moment et à l'heure où il le veut et l'étudiant va pouvoir le rejoindre sous 30 minutes pour lui faire faire des activités qui vont être des activités culturelles mais aussi ludiques, des jeux, du sport, des accompagnements et aussi des services à la personne, par exemple de la garde d'enfants, des cours particuliers, un certain nombre de services que les étudiants vont pouvoir rendre à leurs utilisateurs, mais principalement un service d'accompagnement.
Pas une seconde de plus, hop, Elisabeth Assayag.
Alors c'est terminé, merci pour le pitch. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Pierre-André de Chalandard, première réaction.
Ben, je trouve ça super. J'allais dire, je trouve ça super de deux points de vue. D'abord, en tant qu'utilisateur, ça me donne envie, ça me donne tout de suite des idées. Il faudra que vous me laissiez votre carte ou le www de votre site.
Ça s'appelle Storist.
Mais parce que je trouve ça, en vous écoutant, je pensais à des voyages où j'aurais eu envie d'avoir quelqu'un qui m'éclaire sur ces trucs-là. Je trouve que l'idée d'étudiant est très bonne. Et puis la deuxième chose, c'est que les étudiants, aujourd'hui, ils ont souvent des problèmes de fin de mois. Et que donc, je trouve ça, c'est un truc super pour les aider et qui est assez pratique. Donc, je trouve que ça me plaît, voilà.
Emmanuel,
je vous souhaite de réussir.
Moi, j'ai trouvé que c'était une super idée, sauf que je me demande comment vous arrivez à vous faire convaincre, c'est-à-dire comment à vous faire connaître, comment au fin fond d'un pays qui n'est pas très développé, et où peut-être c'est là où on a le plus envie d'avoir quelqu'un qui va nous emmener au musée des Beaux-Arts du Cambodge pour nous le faire découvrir. Comment on arrive à trouver ce fameux étudiant?
Alors, l'application Stouriste a été mise en place sur les stores au 1er juillet. On a réglé quelques bugs, comme toute application qui démarre, et aujourd'hui, on n'a pas communiqué, c'est-à-dire que c'est la première émission dans laquelle je viens présenter
c'est
l'application.
C'est la meilleure, vous avez bien fait de commencer par.
C'est la meilleure.
Vous avez commencé très fort, là, oui.
Combien de personnes ont... Alors, cet été, il y a des gens qui se sont connectés?
Absolument.
Alors,
donc,
où? Dans quel endroit?
Ce sont des touristes, mais aussi des locaux. On a beaucoup travaillé avec le bouche-à-oreille. On a eu, en l'espace de un mois, plus de 500 téléchargements et environ 150 accompagnements qui ont été faits. On a recruté à peu près 150 étudiants qui aujourd'hui font des études dans l'art, dans l'histoire, dans la gastronomie, qui font des accompagnements.
Et dans quel endroit ?
Paris, principalement.
Ah, donc pour l'instant, on est Paris.
Alors,
bon, c'est
pour
vrai
l'instant,
que c'est
pour
bon.
L'instant, on est dans Paris
c'est
et la région et la région Île-de-France et la région Île-de-France. Nous avons commencé à recruter des étudiants qui se sont inscrits sur l'application, mais on va partir tout de suite à Lyon, Bordeaux, Marseille. D'ici la fin d'année,
pour
on
ensuite,
sera France entière.
Sortir
Absolument.
Et sortir de la France.
Et
alors,
France.
Mais au début, enfin avec le Covid, pour l'instant, c'est plutôt du tourisme à l'intérieur des frontières.
C'est du local. Mais l'objectif, c'est de partir à l'international très rapidement pour aller accompagner les utilisateurs qui vont quand ils vont voyager dans d'autres pays pouvoir utiliser l'application. Donc on a des voyageurs qui arrivent en France et qui utilisent l'application, mais aussi beaucoup de locaux qui veulent faire des activités culturelles avec des étudiants.
Votre modèle économique, combien perçoit l'étudiant sur
Alors,
la prestation?
L'étudiant est très bien payé. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il touche entre deux fois et trois fois le SMIC. Donc en gros, il va travailler à tiers-temps et pour un travail à tiers-temps, il va toucher l'équivalent d'un SMIC.
C'est-à-dire qu'une heure d'activité... Une heure d'accompagnement, c'est combien?
L'heure d'accompagnement, c'est 23 euros. L'étudiant touche 17 euros. Si je suis un groupe de 5 personnes, c'est 34 euros et l'étudiant va toucher 24 euros, soit 3 fois le SMIC horaire.
Est-ce qu'ils sont notés, ces étudiants, après coup? Parce que comment vous vérifiez que celui qui m'a vendu sa spécialité pour le musée Cluny en plein Paris sur l'art médiéval soit véritablement spécialiste de l'art médiéval?
Alors, d'abord, les étudiants, ils sont sélectionnés. C'est-à-dire que nous leur faisons passer des entretiens. Nous avons les cartes qui permettent de justifier de leurs études et ce qui permet à l'application, d'ailleurs, de matcher avec les souhaits de l'utilisateur. L'application ne permet pas, pour l'instant, d'effectuer de notation, mais par contre, il y a un Google Form qui permet aux utilisateurs de laisser leurs commentaires. Et aujourd'hui, nous avions d'excellents commentaires parce que nous avons des étudiants qui font des études dans le tourisme, dans l'architecture, dans l'histoire... et qui apporte énormément de savoir. Et
puis c'est important de préciser que vous ne souhaitez pas en faire un empire, un énorme business. Vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir financer à terme les études de certains étudiants qui n'ont pas les moyens.
C'est important.
Il faut le dire dans le pitch, je pense.
C'est-à-dire que l'année dernière, en novembre 2019, quand je suis revenu justement de Barcelone, où je n'avais pas trouvé d'accompagnateur, et l'idée m'est venue, j'ai appris la tentative de suicide d'un étudiant. Et aujourd'hui, on voit que c'est une population qui a besoin d'être aidée. Il va y avoir plus de 100 000 étudiants qui vont perdre leur job dans la région Île-de-France cette année à cause de la crise du Covid. Et il faut absolument les aider. Et toute l'idée, c'est je fais des activités ludiques et culturelles, j'aide des étudiants et les étudiants vont m'amener vers les commerçants et les artisans de quartier. C'est de l'économie circulaire.
Et ben en tout cas, c'est une super idée. On était très contents de vous mettre en avant. Elisabeth le fait mieux que moi, mais d'habitude, elle épelle les noms des applis. Elle a raison.
Oui.
Parce qu'on ne sait pas toujours comment ça s'écrit. Donc, Stouriste, c'est Stouriste. Voilà, vous savez tout. Et un grand merci à vous, Fabrice Soler, d'être passé
beaucoup.
Aujourd'hui par
merci
la France Bouge.
Et puis, si vous aussi, vous avez un projet, vous avez aussi envie de vous faire challenger et le pitcher devant un grand patron ou une grande patronne. Et bien c'est très simple, il suffit de nous écrire sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr. Vous êtes sur Europe 1, il est 13h50.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge, dernière partie de votre émission, Ma vie au travail. Nous sommes toujours avec notre grand patron du jour, Pierre-André Chalandard, PDG de Saint-Gobain. Alors maintenant, Pierre-André, c'est le moment de découvrir comment certaines entreprises construisent déjà le monde du travail de demain. Alors on a évoqué dans les émissions précédentes le port du masque, le télétravail, le télémanagement. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler du matériel qu'on a dans les entreprises.
Oui, et pour cela, on est en ligne avec Étienne Hirschauer. Bonjour.
Bonjour.
Merci vous aussi d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et de la France Bouge. Vous êtes le président d'Ecoder et vous proposez du matériel informatique reconditionné de façon durable et solidaire par des personnes en réinsertion. Alors vous le faites également pour le grand public, mais là ce qui nous intéresse c'est ce que vous faites pour les entreprises. De façon très concrète, qu'est-ce que vous proposez à ces entreprises comme matériel? Des ordinateurs par exemple?
Exactement. Donc en fait on est une structure qui est dans lesquelles on est 130. On est sur l'ensemble du territoire français et on propose du matériel qu'on distribue soit auprès des particuliers à travers les réseaux sociaux, les places de marché, notre site internet. Et puis, comme vous le disiez, auprès d'entreprises. Mmh. Donc auprès d'entreprises, on a deux démarches. On a une première démarche qui est de leur vendre du matériel informatique, donc qui est du matériel informatique extrêmement robuste, qu'on a reconditionné et sur lequel on est absolument intransigeant sur la qualité, puisqu'on est capable de dire qu'on a un taux de retour sur le matériel qu'on vend qui est inférieur à 5%. Mmh. Et quoi qu'il en soit, le matériel qu'on vend, il est mis sous garantie. Et donc, on a des garanties qui durent jusqu'à 2 ans. Donc, on n'a pas de sujet de qualité. Par contre, on a un énorme avantage. On a plein d'avantages, mais on a un énorme avantage.
L'énorme avantage, c'est le prix, j'imagine. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Combien on économise quand on est une entreprise ? Donc, moitié moins cher, par exemple, sur un ordinateur robuste.
Exactement, oui. Ouais, tout à fait. Et alors, en fait, ça a d'autres vertus, hein, évidemment. Parce que, on a un objet qui est un objet écologique. Donc, de fait, on va réemployer du matériel qui a déjà servi, donc plutôt qu'on le retrouve dans des décharges, on va de 3 ordinateurs qui ne fonctionnent pas en faire un qui fonctionne et qu'on va pouvoir revendre et qui pourra être réutilisé. D'accord? Donc ça, c'est cette première vertu qui est très fortement écologique. Puis on a une deuxième vertu, c'est qu'on fait travailler des personnes qui sont soit en insertion, soit en situation de handicap.
Donc
de fait, on boucle un peu la boucle en essayant d'avoir une démarche vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis des personnes qu'on emploie qui soit doublement vertueuse.
Une démarche doublement vertueuse. Et j'imagine que les entreprises à qui vous vendez tout ce matériel reconditionné, eh bien, elles sont fières aussi d'annoncer à leurs salariés que ces ordinateurs, ben, c'est pas le fait d'un contrat, d'un appel d'offres et hop, ils ont choisi tout un stock d'ordinateurs. Là, ça donne un sens à l'entreprise et c'est ce que recherche le salarié aujourd'hui.
Exactement. Alors ça, c'est très clair. On le connaît, nous, auprès de nos équipes, mais on le connaît aussi très fortement auprès des personnes de nos clients. C'est clair que on attire de plus en plus. Et je vous entendais parler tout à l'heure de notre relation par rapport au Covid et de la manière dont le Covid avait fait évoluer les choses par rapport à notre activité. C'est vrai que depuis le mois de mars, nous, on a une activité qui a explosé. C'est-à-dire qu'on a fait quasiment un mois de mars où on avait des demandes qui étaient 10 fois supérieures à celles du mois de février. Parce qu'en fait, les gens ont sans doute réalisé, et puis accessoirement, ils avaient besoin de matériel informatique pour pouvoir travailler, mais ils ont sans doute réalisé aussi que ils n'avaient pas forcément les moyens d'acheter leur matériel dans des grandes entreprises de distribution, et que pour autant, ils avaient impérieuse nécessité d'avoir des outils fiables et performants pour pouvoir travailler ou pour pouvoir communiquer avec leurs proches. Mmh. Et donc, la solution du reconditionné,
c'est la bonne solution. Merci en tout cas, Étienne Hirschauer. Dernière petite question, Pierre-André de Chalandard. Chez Saint-Gobain, le Covid a changé aussi les choses en termes d'organisation au sein même de l'entreprise, avec le matériel, mais aussi dans les rapports humains.
Il a décidé pour le siège avec un changement de siège. Donc on est parti au siège de Saint-Gobain, on est parti le 15 mars de nos anciens bureaux, on est revenu dans des nouveaux bureaux le 11 mai. Donc ça a changé pas mal de choses avec des changements de génération de matériel et tout. Mais je veux dire, il est encore un petit peu tôt pour savoir.
On n'a pas encore
recul
nécessaire.
Il y a plus de digital, ça c'est clair. Hein. Mais si vous voulez, si je prends notre distribution, on a à la fois augmenté beaucoup nos ventes en ligne, mais on est revenu à la fin quand on a déconfiné, les clients sont revenus dans les agences parce qu'ils ont besoin d'être conseillés aussi. Donc ça, c'est physique, il est important, mais il y a des choses qui bougent. L'organisation du travail, ça je sais pas. On va avoir plus de télétravail, mais moi je suis contre le tout télétravail.
Évidemment.
On est des êtres de relations.
En tout cas, vous venez de le dire, les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer. Merci à vous, en tout cas, c'est la fin de votre émission. Merci à vous, Pierre-André de Chalandard, PDG de Saint-Gobain, d'être
Et on est très en retard, donc rendez-vous demain, 13h, au bon endroit sur Europe 1, la France bouge.